Avant de commencer le message, j'ai envie de raconter un petit témoignage. Bien sûr, un témoignage reste un témoignage, ce n'est pas un enseignement. Il y a à peu près 2 mois d'ici, ici au culte, il y a un jeune qui était rentré. Et après le culte, il y a Patrick qui est venu me trouver, me dire, il y a un jeune qui est là et qui veut se baptiser. Il veut voir le pasteur, mais comme Mehdi n'était pas là, j'ai été le voir et il me dit « Ouais, j'ai envie de me faire baptiser. » Tout en parlant avec lui, je dis « Il faut qu'on te connaisse un petit peu, qu'on parle un petit peu avec toi et tout. » Et je dis « Écoute, la meilleure chose, c'est que tu téléphones au pasteur et tu parles avec lui. » Je lui ai donné le numéro de téléphone de Mehdi. Et depuis, on n'a plus une nouvelle de cette personne. Et vendredi, c'était notre, à l'usine, notre fête de Saint-Nicolas. On est tous ensemble pour manger un petit morceau ensemble. Et également, toutes les personnes qui sont pensionnées ou pré-pensionnées sont là. Et j'avais vu un pensionné qui était là. Et qu'il était tout content de me voir. On a commencé à parler un petit peu. Et puis, la journée passe. Et avant de manger, cette personne vient me retrouver et me dit, « Gino, tu vas toujours à l'église à la rue de Baillemont ?» Je fais, « Oui, bien sûr. » Et alors, il me dit, « Tu me fais un plaisir. » Je fais, « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Il me dit, « Mon fils n'habite pas trop loin de la rue de Baillemont. Je voudrais vraiment que tu ailles. » Je dis, « Bah, il n'y a pas de souci. Il s'appelle comment ton fils ?» Il me dit, « Luciano. » Luciano ? Ça me dit quelque chose. Je dis, « Il n'y a pas longtemps, il y a un Luciano qui est venu à l'église et qui a demandé son baptême. » « Mais c'est lui !» Je fais, « C'est lui ?» Ouais, il m'a raconté qu'il était venu à l'église à la rue de Baillemont. Il me dit, fais-moi plaisir, viens, on va lui téléphoner. On a été dans un endroit où on était tranquille et il commence à téléphoner à son fils et il lui dit, je te passe quelqu'un qui te connaît. Je prends le téléphone, je dis, bon, on se connaît pas trop, mais je t'ai vu une fois à l'église. À Jumet. Je m'appelle Gino. Ouais, je me rappelle de toi. J'ai toujours le numéro de téléphone de ton pasteur. Mais je n'ai pas encore téléphoné. Et je dis, bah, écoute, c'est l'occasion, bientôt c'est Noël. Et on va fêter Noël ensemble, je t'invite. Et il me dit, est-ce que le pasteur sera là? Je dis, oui, il sera là. Tu peux parler avec lui. Alors, c'est un petit témoignage. Mais combien Dieu est grand et tout-puissant pour faire tout simplement son plan comme il veut pour chaque personne. Je voulais raconter ce témoignage parce que c'est un sujet de prière pour chacun de nous. Alors, maintenant, je vais passer au message. Est-ce que ça vous arrive d'aller à un endroit où c'est interdit de rentrer? Moi, quand j'étais plus jeune, plusieurs fois, j'ai fait ça. De rentrer à un endroit où c'était interdit. J'habitais dans un quartier où on jouait souvent au football avec tous les jeunes. Et bien sûr, on jouait ça en pleine rue. Il y avait beaucoup, beaucoup moins de voitures à l'époque. Mais ça nous arrivait, pas loin de chez nous, il y avait une école avec un beau grillage bien fermé. Et le samedi ou le dimanche, on montait au-dessus du grillage pour aller jouer au football. C'était interdit. Il y avait une peur, une crainte quand on montait ce grillage, si quelqu'un nous voyait. Et on allait jouer. On rentre dans un endroit, c'est interdit. Ça nous arrivait aussi en tant que jeunes. Il y avait une usine pas loin de chez nous avec un grand muret. On montait au-dessus pour aller à l'intérieur parce qu'on était bien, on était tranquille avec une bande de copains. Mais c'était interdit d'y monter et de rentrer. Et pourtant, on l'a fait souvent. Pas loin de chez nous aussi, il avait une belle clôture, une belle maison. On montait au-dessus de cette clôture parce qu'il y avait un arbre, qui c'était un cerisier. On montait là, on restait là et on mangeait les cerises. Mais on avait une crainte. On ne sait jamais, le propriétaire nous voyait. On rentre dans des endroits que c'était interdit et pourtant on y entre. Alors ce matin, je voudrais m'arrêter sur un passage. Mais avant de lire ces quelques versets, juste expliquer le contexte de ce chapitre 9 de Jean. Tout le monde connaît Jean 9, tout un chapitre où Jésus guérit un homme qui est aveugle de naissance. C'est un jour de sabbat et Jésus guérit cet homme. Et là, il avait des pharisiens, des religieux de cette époque, lui ont posé des questions à cet aveugle. Comment il a été guéri? Alors, cet homme aveugle explique, un homme qui s'appelle Jésus a mis de la boue sur mes yeux et m'a dit, va te laver. Et je suis allé et je suis guéri. Les pharisiens se posaient des questions, mais tu sais que cet homme-là ne vient pas de Dieu. Et l'aveugle lui dit, en tout cas, il m'a guéri. Cet homme, c'est Jésus. Et il lui pose énormément de questions. Que ces pharisiens ont posé également des questions aux parents, s'il était vraiment aveugle de naissance. Et les parents lui répondent, il était aveugle de naissance. Ils sont revenus encore vers cet homme et lui posent encore des questions. Et cet homme continue à répondre que Jésus l'a guéri. Alors ces religieux, il est dit qu'ils jetèrent cet homme hors de la synagogue. Jésus, lui, apprit qu'il était chassé hors de la synagogue, va le trouver et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ? Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Tu l'as vu, lui dit Jésus, c'est celui qui te parle. Alors il dit, cet homme, je crois, et l'adora. Voilà, toi, un contexte, tout le chapitre 9 de Jean, un homme qui a été guéri de naissance aveugle. Et le chapitre 10, souvent on oublie, c'est une suite de ce chapitre 9. Et on va lire ce chapitre 10 que les 6 premiers versets. Il est dit, « en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. » Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Voilà la lecture de ce matin. Jésus continue à leur enseigner à ces pharisiens. Mais il raconte une histoire. Mais il est dit qu'ils n'ont rien compris à cette histoire. Et ce matin, on va essayer de comprendre cette histoire, cette parabole. Jésus raconte une histoire de leur époque, de leur contexte. Aujourd'hui, si on parle de berger, de brebis, de bergerie, on ne comprend pas trop. Du moins, les plus anciens, oui. Mais aujourd'hui, on ne comprend pas trop c'est quoi. Mais à leur époque, bergerie, berger, brebis, ça devait sonner à leur oreille. Et Jésus commence à leur dire, en vérité, écoute ce que je vais te dire, écoute bien. Tu sais c'est quoi un berger? Et tu en connais des bergers. Il y avait Abraham qui était berger, Isaac, Jacob, Moïse, David. Les rois étaient des bergers, les sacrificateurs étaient des bergers. Et vous, les pharisiens, vous vous appelez des bergers. Alors, en vérité, écoute ce que je vais te dire. Sois attentif à ce que je vais te dire. Jésus parle de bergerie, ou d'autres traductions, enclos. C'était un endroit qui était fait de pierre ou de bois, avec une bonne distance, c'est d'après la région. Et là, dans cette bergerie, il y avait des brebis. Il y avait une certaine distance et une hauteur. La hauteur, bien sûr, pour tous les animaux de cette époque qui ne passaient pas, qui essayaient de passer par-dessus pour aller attaquer les brebis, mais aussi pour que les brebis ne passent pas au-dessus de cette bergerie. Alors, dans la région, il n'y avait qu'une seule bergerie. C'était rare où il y avait plusieurs bergeries. Il n'y avait qu'une seule bergerie avec plusieurs bergers. Et les bergers, au soir, ils portaient leurs brebis à la bergerie. Il n'y avait qu'une seule porte et les bergers portaient les brebis. Et le matin, les bergers venaient et ils appelaient leurs brebis par leur nom. Magnifique. Je trouve ça magnifique. Si un berger savait un nom d'une brebis qui ne lui appartient pas, par exemple Arthur, commençait à dire Arthur, ben la brebis n'écoute pas parce que ce n'était pas son berger. Elle entend la voix de son berger et pas d'autres bergers. Quand on a acheté des poules, on a donné des noms à ces poules. Mais quand j'y vais, ils ne m'écoutent même pas, même si je les appelle. Mais les brebis, oui, ils écoutent. Et Jésus leur dit qu'il y avait des bergers qui ne passaient pas par la porte, mais qui passaient par un autre endroit et qu'ils montaient au-dessus de cette bergerie. Et Jésus dit que ce sont des voleurs et des brigands. Nous avons tous les acteurs, tous les ingrédients dans cette parabole. Et on va essayer de comprendre. Jésus parle de bergerie. C'est quoi la bergerie, au juste, que Jésus mentionne dans ce contexte? Mais Jésus parle de la bergerie Israël, Israël. Quand Jésus dit à ses disciples, allez annoncer la bonne nouvelle dans Matthieu, il dit, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. La bergerie, c'est Israël. Et Jésus est venu pour Israël. Nous avons le premier ingrédient, la bergerie, Israël. Jésus parle de brebis. L'aveugle de naissance. Cet homme d'Israël est perdu. Jésus est venu pour cette personne. Le vrai berger, c'est Jésus. Le portier lui ouvre la porte. Le portier, ici, dans ce contexte, on pense vraiment que ce sont les prophètes de l'ancienne alliance qui ont préparé la venue de Jésus-Christ, notamment Jean-Baptiste. Il ouvre la porte au berger et les brebis entendent sa voix. Ils l'appellent par leur nom. Et Jésus les porte dehors. Ils connaissent sa voix. Jésus lui dit à l'aveugle, « Va te laver. » Cette brebis écoute, elle va se laver. Elle obéit, elle croit à ce berger. Et elle est dehors, elle est sauvée. Les chefs religieux, ces pharisiens, eux sont les bergers, mais pas n'importe quel berger. Jésus est en train de mentionner que ces bergers sont des voleurs et des brigands, des faux bergers. C'est quoi un voleur? Un voleur, c'est quelqu'un qui prend quelque chose qui ne lui appartient pas. C'est quoi un brigand? C'est une personne qui tue une autre personne. Ces bergers ont passé au-dessus de Dieu, au-dessus de la vérité de Dieu, pour venir voler et tuer des personnes. C'est bizarre qu'ils n'ont pas compris cette parabole. Cette image, cette histoire, ils doivent comprendre cette histoire et se mettre à genoux devant Jésus et être tristes. Et ils doivent se repentir. Cette image nous parle moins à cette époque d'aujourd'hui. Et pourtant, cette image nous parle énormément aujourd'hui. Si je vous dis le mois d'octobre, qu'est-ce qui s'est passé au mois d'octobre? Le 7 octobre, qu'est-ce qui s'est passé? Le monde entier a vu des choses horribles, horribles. Israël, la bergerie, avec une clôture de pointe à la pointe, une sécurité que personne sait rentrer. Personne. Des grillages, des murs, des caméras à la pointe. Et pourtant, le Hamas est passé au-dessus de ces murs, au-dessus de ces grillages. Ils sont venus pour voler et tuer des personnes. Ces faux religieux sont passés au-dessus pour voler et tuer. Horrible, horrible. L'époque de Jésus, quand Jésus raconte cette histoire, c'était horrible, horrible aux yeux de ces pharisiens, aux yeux de ses disciples. Nous avons vu toutes ces images et tout le monde a crié « horrible, horrible ». Nous sommes au mois de décembre. Mais est-ce qu'on a compris ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a compris ce qui s'est passé? Les faux religieux passent au-dessus pour voler et tuer les personnes. Cette parabole, je voudrais vraiment m'arrêter sur trois points. Ça va aller vite. J'ai toujours peur de dire « il y a trois points ». Parce que je me souviens que j'ai lu Raph Chalice dans son quartier, il avait dit « j'ai 10 points ». Et tous les jeunes sont partis quand ils ont entendu 10 points. J'en ai que 3, restez assis, ça va aller vite. Le premier point, c'est la sécurité. Tu peux avoir la meilleure sécurité. Ça ne veut pas dire une garantie totale. Mais la sécurité de Dieu, c'est une garantie totale. Jésus est venu pour sauver les perdus. Il les appelle par leur nom, mais pas n'importe quel nom. Un nom éternel, un nom de vie et non de mort. Si tu es ici, c'est que tu as un nom de vie éternel. C'est lui qui te le donne. Jésus déclare devant tout le monde, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, elles me suivent et personne ne les ravira de ma main. » Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de voleurs pour ces brebis. Il n'y aura plus de brigands. Non, on connaît directement quand Jésus est parti. Étienne a été volé et arraché pour mourir. Il y aura encore des voleurs et des brigands jusqu'au retour du Christ. Mais Jésus nous dit qu'il est devant nous et pas à l'arrière. Il est devant nous. Il prépare notre chemin comme le chemin de Luciano que nous avons entendu ce témoignage. Il est devant. Il connaît sa brebis. J'ai entendu un frère qui disait 3 choses quand il a entendu cette catastrophe du 7 octobre. 3 choses. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Jésus-Christ est ressuscité. Vous savez que le chrétien n'est plus dans le tombeau, mais il est vide le tombeau. Il est ressuscité. Jésus le déclare. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Le voleur peut venir et peut tuer, mais le tombeau sera vide. Parce que nous sommes dans sa main, éternellement. La deuxième chose qu'il disait, qu'on a du mal à comprendre, et c'est difficile. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Parfois, on ne comprend pas toute chose. On voudrait comprendre. Mais Dieu nous demande d'avoir confiance en lui. Et le dernier point qui nous dit ce frère, on connaît la fin. On connaît la fin. Jésus a vaincu le monde. Nous sommes dans la sécurité de Dieu. Israël avait oublié ça. Que la meilleure sécurité, c'était la sécurité en Christ. Le deuxième point. Tu sais que tu es le portier. Tu sais que tu es le gardien. Aujourd'hui, la bergerie, où elle se trouve, la bergerie ? La bergerie se trouve là où tu es. Tu es le gardien de tes enfants. Tu es le gardien de ta femme, de ton mari. Tu es le gardien de ta famille. Est-ce que tu es le gardien de tes collègues, de ton voisin ? Tu es celui qui protège contre ce qui se passe dans ce monde. Mais n'oublie pas, tu n'es pas le berger. C'est pas toi qui choisis la brebis qui est perdue. Jésus connaît ses brebis, mais toi tu les connais pas. Sois le gardien. En quelque sorte, tu es le prophète, pas dans le sens comme dans l'Ancien Testament, mais tu es le prophète dans le sens où tu dois dire la vérité. Tu dois être juste. Tu es celui qui protège. Tu es dans la sécurité. Tu es le gardien. Troisième point. J'ai été souvent dans des endroits interdits. Mais ma conscience n'était jamais tranquille quand j'étais dans ces endroits-là. Et souvent, ceux qui font des choses qu'ils ne peuvent pas faire, ils ne sont pas tranquilles. Allez demander à un mafieux s'il est tranquille. Il dort mal parce que sa conscience n'est pas tranquille. Est-ce que ça t'arrive de prier pour le Hamas? Est-ce que c'est arrivé quand tu as vu ces choses horribles, tu as prié pour le Hamas? Tu as prié pour tes frères, Israël. Mais est-ce que tu as prié pour le Hamas? Est-ce que tu as prié pour ceux qui ont fait jeter ces personnes dehors de la synagogue? Ces faux bergers. Étienne, ils l'ont pris, ils l'ont volé, ils l'ont chassé hors de la ville, comme ces gens d'Israël. Ils l'ont chassé hors de la ville et ils l'ont lapidé. Étienne, vous savez qu'est-ce qu'il a dit à la dernière parole ? Il s'écria d'une voix forte vers l'Éternel. Ne leur charge pas de ce péché. Quelle prière ! Quelle prière ! Jamais j'aurais fait ça. Jamais. J'aurais peut-être dit, Seigneur, regarde le mal qu'ils me font, fais la même chose pour eux. Est-ce que moi, j'ai prié pour le Hamas ? Est-ce que moi, je prie pour ceux qui me persécutent ? Est-ce que ça m'arrive ? C'est difficile. C'est difficile. Mais l'enfant de Dieu est appelé à faire ce que le Seigneur nous appelle à faire, c'est de prier pour tes ennemis. Paul était un voleur, mais un brigand. Il a approuvé la mort d'Étienne. Paul pénétrait dans les maisons et arrachait les femmes et les hommes. Il les arrachait de leurs maisons. Je ne sais pas si on comprend le sens, ce qu'il faisait. Il prenait ses femmes et ses hommes pour les porter en prison, pas des prisons comme aujourd'hui. Étienne, Paul était un voleur et un brigand, mais sa conscience n'était pas tranquille jusqu'au chemin où le Seigneur l'arrête et lui dit « Stop, Paul ». Est-ce que tu pries pour ceux qui prennent des personnes, qui les volent et qui les mettent en prison ou qui les tuent? Trois choses. Tu es dans la sécurité de Dieu. Tu es le portier, mais tu es celui qui doit prier pour ceux qui font du mal. Parce que ceux qui font du mal, il y a peut-être des brebis qui sont perdues. Cette parabole, c'est ton histoire, c'est mon histoire, c'est ma vie, c'est ta vie. Est-ce que tu n'as pas été voleur? Tu as oublié que tu étais voleur? Souvent, quand je parle avec des personnes, ils me disent la première chose, « j'ai jamais tué ». Mais est-ce que c'est vrai dans ton cœur, tu n'as jamais tué? J'ai déjà tué plusieurs personnes dans mon cœur. Plusieurs fois, j'ai volé dans mon cœur. Je sais que j'étais aveugle. J'étais aveugle, voleur, tueur. Et Jésus est venu sur la croix pour me dire, « Gino, moi je vais payer pour toi parce que tu es incapable de payer. » Je le fais pour toi, parce que tu es ma brebis qui est perdue. Et Jésus est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Et il va revenir, Jésus, pour que nos yeux voient Jésus-Christ. Comme cette brebis qui était perdue, l'homme aveugle, il voit Jésus. Et il l'adorera. C'est ce qu'un jour on va faire. Nos yeux vont voir Jésus et on va l'adorer. Mais ce matin, il veut nous rassurer. Tu es dans la sécurité. Tu es le gardien. Continue à prier pour les brebis perdues. Moi, je fais le reste. Amen.